RMC Running, Benoît Boutron.
Salut à tous, bienvenue dans RMC Running, le podcast d'RMC destiné à tous les passionnés. De la course à pied, bon, avec mon coach préféré, le maître Yodu, le membre de l'équipe de France de marathon. Salut Yodu.
Salut à tous, salut Benoît, ça va ?
Yoann Durand, évidemment, hein, pour ceux qui le découvrent, même si ça n'existe plus, les gens qui aiment la course à pied. Qui
c'est ça, et Dr Love.
Et Dr Love. Vous continuez à nous suivre sur les réseaux sociaux, Strava, Instagram notamment. Et aujourd'hui, on a un épisode d'actu pur et dur, Yoann, parce qu'on va filer à Rome. Spécial championnat d'Europe d'athlétisme. Les amis d'RMC Running brillent, on va les recevoir. Quel bonheur pour nous, Yoann. Elles sont toutes les deux venues en studio il y a quelques semaines.
Ta perf dans tous les
elles
sens.
Elles ont brillé, elles sont montées sur la boîte. Alice Fino, championne d'Europe du 3000 steeple, sera avec nous dans quelques secondes. On va recevoir également notre bretonne Agathe Guillemot, médaillée de bronze au 1500. Elles nous ont fait vibrer. On fera le point aussi avec Aurélien Tiercin, qui est l'envoyé spécial d'RMC à Rome pour ses championnats d'Europe. On reviendra aussi, Yoann, tous les deux, sur les perfs du semi-marathon, parce que là, c'est plus notre zone de prédilection. Il y a eu des perfs mitigés, mais ce n'était pas l'objectif prioritaire. L'objectif prioritaire,
c'est jamais facile.
C'est le marathon pour tous ceux qui étaient engagés, en tout cas pour la plupart. Et puis, on aura un bon plan matos qui te tient à cœur, parce qu'on va mettre en avant l'appli Runners.
Tout à fait.
Eh oui, ce sont tes amis, toi tu es engagé dedans.
On va éviter aux gens de se perdre.
Voilà,
imagine, ils vont courir sans se perdre.
Le concept, rapidement, c'est vous débarquez dans un endroit que vous ne connaissez pas, l'appli vous aide à trouver un parcours de course à pied, donc c'est super. On recevra deux cofondateurs, David Dupont et Michael Estaille, et puis on recevra également Clément Sicuto, qui est directeur de l'agence Sport Tour International, parce qu'ensemble, vous allez mettre en place un jeu concours pour le Marathon de Londres en avril 2025. Voilà, Clément est spécialisé dans l'organisation de voyages autour des marathons majeurs.
Ah, il vous envoie partout dans le monde.
Et voilà, donc on fera ça à la fin de cet épisode. C'est chargé, c'est dense, et on y va tout de suite. C'est parti, direction Rome.
Et lors de ces championnats d'Europe d'athlètes à Rome, la France brille.
Son dernier 400 est ravageur et elle va aller chercher le titre de championne d'Europe. La dernière barrière pour Alice Fino, elle assure, c'est bon.
Il y a eu les médailles d'or donc d'Alice Fino sur 3000 mètres steeple.
Avec surtout quelques performances assez exceptionnelles.
Et la course gagnée, Alice Fino, championne d'Europe du 3000 mètres steeple. C'est une grande première dans l'histoire de l'athlétisme français.
On était à la machine à sous, chaque course c'était une médaille pour l'équipe de France.
Alice Fino, championne d'Europe. Devant Krause, l'Allemande, et Bird, la Britannique, on l'attendait.
On rajoute à ça les bronzes de Agathe Guillemot et Ilionis Guillaume sur le 1500. On n'avait plus connu de médaille d'or depuis le 10 août 2018, le 110 mètres haies de Pascal Martino Lagarde.
Elles sont là, nos championnes. Quel bonheur de vous retrouver. Alice Fino, qui est donc désormais championne d'Europe du 3000 steeple. Salut Alice.
Hello.
Ah, merci d'être là, Alice. Agathe Guillemot est là également, médaillée de bronze sur 1500. Salut Agathe.
Salut à tous.
Ah, merci d'être là aussi, Agathe. Et puis Aurélien Tiercin, notre envoyé spécial à Rome. Salut Aurélien.
J'ai jamais vécu ça. Salut les gars, salut à tous.
C'est vrai que la dernière fois qu'on l'avait eu, on était plutôt...
il sait pas ce que c'est que de faire des podiums, des médailles, et surtout des podiums qui s'enchaînent. Bah, fais-nous un point d'ailleurs global. Là, nous, on enregistre, on est mardi, il est 14h30, on est en plein concours de décathlon, c'est la deuxième journée, notamment pour Kevin Mayer. Est-ce que tu peux nous faire un point d'étape, Aurélien, où on est cette belle équipe de France qui brille depuis le début de ces championnats d'Europe à Rome, hein?
Bah déjà, le drapeau bleu-blanc-rouge, effectivement, on le trouve très rapidement au tableau des médailles, puisqu'on est deuxième derrière l'Italie, qui est en train de faire des championnats d'Europe exceptionnels à la maison. Mais donc, la France deuxième avec 9 médailles, ce qui était le total à Munich en 2022. Sauf que la grande différence, c'est qu'on avait eu 0 titre en Allemagne, et là, on en a déjà 4.
Ah ouais.
Donc, Alice Fino, on en reparlera, il y a Gabriel Tuel sur 800 mètres, il y a Alexis Mielet sur le 3000 mètres steeple. Donc, déjà 4 médailles d'or pour l'équipe de France. Donc voilà, deuxième au tableau des médailles. En plus, c'est pas fini, il reste le 10 000 avec Jimmy Gresset, Jan Schrub qui pourrait être une belle surprise. Il y a Mackensen Gletti pendant le décathlon, parce que lui il joue la gagne et il pourrait être avec tout en haut du podium, Mackensen Gletti. Donc on est en train de vivre des championnats vraiment exceptionnels,
ouais,
pour l'équipe de France.
Et t'as vu, tous nos potes sont en train de briller, tous ceux qui sont
passés par RMC Running. Non, mais c'est surtout on sait les mettre en confiance.
Ah, c'est fou. Et Alice, j'ai une pensée pour toi, on a vibré devant ta course, tu es championne d'Europe du 3000. Tu es venu, c'était juste avant d'embarquer pour ton stage en Afrique du Sud, et tu nous as dit non mais les gars, moi le chemin il est clair, je vais me préparer en Afrique du Sud, je reviens, je décroche le titre de championne d'Europe et là direction les Jeux. Bah on y est Alice,
hein,
bravo.
J'ai bien bossé. Hein. Ouais,
bravo, non mais quelle histoire en tout cas, quel bonheur. Et est-ce que tu peux nous raconter cette finale parfaitement gérée? Ensuite il y a eu des péripéties, on va y revenir, mais déjà la finale pure et dure, Alice s'il te plaît, est-ce que tu peux nous la faire revivre grâce à tes mots?
Ouais, la finale elle était magique, elle était vraiment en plein contrôle. J'avais essayé d'anticiper un peu tous les scénarios qui auraient pu se passer. Et puis ma conclusion, c'était ben tu t'es armé. T'es armé pour courir au train, mais t'es armé aussi pour finir fort. Donc te prends pas la tête sur les scénarios, sois juste lucide et attentive pendant la course et puis fais-toi plaisir. Et mon coach m'avait dit d'attendre un peu plus longtemps pour pas trop prendre de risques. Et puis en fait, je me suis sentie tellement bien. J'avais envie de jouer, j'avais envie de prendre des risques parce que c'est ce que je vais devoir faire à Paris. Et à moins de 500 mètres de la ligne, je me suis dit maintenant la tête de course, c'est toi qui la tiens et tu passes la première la ligne. Donc là, je suis partie et je me suis dit qui même me suivent les filles.
Exactement. Et quelle maîtrise, Johan, t'as
elle
pu cette
costaud,
course.
Elle a été costaud.
Magnifique.
Elle a été très forte et même tactiquement, elle a bien joué le coup parce que bah elle le dit qu'elle a attendu un peu la fin de course parce qu'elle se sentait forte. Mais je pense que si c'était parti aussi plus vite, elle était armée pour répondre. Donc effectivement, il n'y a pas eu photo et elle s'est imposée d'une main de maître.
Bon, t'as fait transpirer notre envoyé spécial Aurélien Tiercin parce qu'il y a eu cet épisode du pied sorti de la piste. Voilà, ça a beaucoup
elle
fait
a
parler. Alice, tu as décroché ce titre, tu as ensuite été disqualifiée, puis finalement reclassée. Ça fait des cheveux blancs, Aurélien Tiercin.
Ouais, surtout,
ouais, ouais, ben oui, là, toute la soirée, ça a été compliqué, les gars. Là, parce que, et en plus, quand on revoit les images avec ce demi-pied à peine posé sur la ligne, franchement, ça aurait été excessivement dur.
Est-ce que t'as tremblé, Alice? Parce que si t'avais été disqualifiée pour vraiment, c'est même pas des centimètres, quoi, c'est des millimètres, ça aurait été trop dur à digérer, Alice.
Ouais, ça aurait été surtout une injustice parce que je pense que c'est pas un mouvement qui m'a permis de tirer un avantage sur la course à ce moment-là.
C'est ça, ouais.
C'était vraiment un effet de course et puis faut passer des rivières pour se rendre compte de la difficulté et de la monstruosité de l'effort à ce moment-là. Et le fait de les passer en peloton, ça rajoute une difficulté. Donc quand je me décale, je pense que c'est surtout pour éviter des filles et éviter un accrochage et une chute. Ça pousse aussi derrière, donc voilà, c'est quand même des effets de course durs à gérer. Et puis moi, je m'en étais pas rendu compte. Donc après, il y a des règles, hein, il faut les faire valoir. Et puis la fédération a très bien défendu mon cas pour qu'on arrive avec une fin heureuse.
Voilà. En 2016, Eliud Kipchoge a été disqualifié aux Jeux Olympiques à Rio. Il a perdu la médaille d'or suite à une réclamation des Français pour Mayedine Mekissi. Et du coup, ça arrive assez régulièrement dans ces épreuves.
Hein. Alice, t'es restée sereine, t'étais inquiète, t'étais dans quel état d'esprit pendant ces deux heures mouvementées alors?
Je me suis autorisée à lâcher prise. En général, je contrôle un peu tout ce qui se passe et j'essaie de gérer les situations. Là, pour le coup, je me suis dit, ok, toi, t'as fait ton taf, t'as vraiment fait la course que tu voulais et puis t'as montré que t'étais supérieure ce jour-là. Donc, à partir de là, moi, j'avais fait tout ce que j'avais à faire et puis c'était entre les mains de la fédération et des juges de faire valoir mon honnêteté, en tout cas, enfin ma place, que c'était ma médaille.
Bien sûr.
Donc à ce moment-là, j'ai laissé le pouvoir entre leurs mains, j'ai fait ce que j'avais à faire, c'est-à-dire attendre, contrôle antidopage, protocole, etc. Et j'ai attendu la bonne nouvelle. Et je vous avoue que j'ai eu l'impression de gagner la médaille deux fois ce soir-là.
Ah bah tant mieux, finalement, c'est deux victoires.
C'est comme au foot, tu vois, tu marques le but et t'attends deux minutes.
C'est un bon exemple, c'est exactement ça. On est ravis pour toi, Alice, j'ai vu les images de retrouvailles avec tes proches à la sortie du stade, c'était un moment très émouvant. On connaît le mental que tu as, j'invite tous ceux qui nous écoutent à réécouter le podcast qu'on a fait avec Alice, un mental d'acier. On le savait qu'elle était motivée et qu'elle était capable de prendre les choses en main, elle l'a confirmé, Johan.
Ouais, non mais je l'ai dit, hein, c'est une course en patronne. Après voilà, il faut voir maintenant les perspectives que ça peut ouvrir face aux coureurs d'Afrique de l'Est avec le Kenya et l'Éthiopie pour les Jeux Olympiques, mais là c'est vrai qu'elle a fait le plein de confiance et qu'elle va arriver à la maison à Paris surmotivé et donc après voir ce que ça peut donner dans deux mois. Ouais.
Exactement. Alice reste avec nous, mais parole à notre bigouden Agathe Guillemot, qu'on a reçue aussi, c'était après Liévin, elle s'est régalée sur les meetings en salle cet hiver, elle était là, elle était très heureuse, elle nous disait
même
ça.
Même les crosses, elle s'était
aussi
pas arrêtée.
Ah, on l'avait reçue avant le cross,
ouais,
après elle a fait un
cross.
Festival au cross et puis elle s'est lancée sur sa saison sur 1500. Agathe, quel bonheur on a eu de te voir aller chercher cette ligne droite et ce premier podium international, quelle émotion pour toi, c'est génial à tout juste 24 ans.
Ouais, c'était fou. Et avant de venir au championnat d'Europe, j'ai toujours rêvé de faire un tour d'honneur avec le maillot, le drapeau dans les mains. Et dans ce dernier tour, quand je suis quatrième, je vois qu'on se détache un peu à 4 et je me dis c'est pas possible, je peux pas.
Tu peux pas faire 4.
Je peux pas faire 4, c'est impossible. Ouais. Et vraiment, j'ai tout donné et j'y ai cru jusqu'au bout parce que. Parce que voilà, si c'était dur pour moi, c'était dur pour les autres. Et je me suis dit que si je lâchais pas, ça allait le faire. Et j'y ai toujours cru. Et je pense que c'est ce qui fait la différence pour finir quatrième ou troisième, voilà, j'y ai cru.
Ah, raconte-nous ce grand moment, parce que c'était une grande finale internationale pour toi. Est-ce que tu étais stressé, étais excité, tu étais dans quel état d'esprit au moment du starter?
J'étais plutôt sereine, parce que bah, comme le disait Alice, j'ai une préparation aussi quand même un peu optimale, et ouais, j'avais vraiment... J'étais armée, que ce soit pour du train, parce que bah, j'ai quand même fait 4-0-2 et on est encore assez tôt. Donc finalement, les filles, elles ont aussi mon niveau actuellement sur une course au train. Et j'ai pu montrer mes qualités de finish rien que dans les séries et même dans la saison cet hiver. Donc j'étais prête aussi à faire une course tactique. Donc j'étais sereine et j'avais hâte d'en découdre et de tout donner. J'avais qu'une envie, c'était de passer cette ligne et de me dire « Ok, j'ai fait tout ce que j'avais à faire et j'ai exprimé le meilleur de moi-même. » Et c'est ce que j'ai fait. Donc voilà, beaucoup de sérénité et d'envie, je pense, sur cette ligne de départ.
Tu avais terminé 7e au Mundial en salle à Glasgow sur 1500. Là, tu vas chercher un podium international. Johan, c'est ce qui marque sur la course d'Alice. Là aussi, allez revoir les images, mais c'est la détermination sur le visage dans le dernier 100 mètres.
Ouais, non, c'est vrai que ça, c'est un peu nouveau chez les filles. C'est cette capacité à avoir aussi cette détermination, cette force, cette confiance en elle et cette capacité tactique à faire pas la course parfaite, mais pas loin. Mais c'est vrai que la saison de Agathe, elle est presque, tu vois, quand je pense qu'avec son coach en début de saison, ils ont fait la planification, elle est presque parfaite, parce que tu passes par les mondiaux où tu vas prendre de l'expérience, tu rentres en finale, tu fais 7e des mondes, bah voilà, c'est déjà un nouveau premier step chez les grandes. Et effectivement, derrière, après, tu arrives aux Europes, tu rentres en finale, tu n'as rien à perdre, tu y vas, poum, tu fais 3e. Et quand tu regardes le début de saison, il était très bon. Elle fait 3-1500, elle fait 4-4, 4-2, 4-3. Ouais, donc, elle savait qu'elle était en forme. Là, tu as les armes. Et maintenant, c'est pareil pour Agathe. La finale olympique, ce n'est pas que un rêve. Maintenant, ça doit devenir un objectif et une ambition. Et elle en est tout à fait capable. Ouais.
C'est ça, Agathe? C'est un rêve et une ambition?
Ouais, là c'est plus trop un rêve, c'est vraiment l'objectif de la saison et le capital confiance, il est vraiment au maximum grâce à ce championnat et c'est ce genre de compétition où pour l'instant j'avais pas encore beaucoup d'expérience et là je commence à capitaliser entre les mondes extérieurs, à Budapest, Glasgow cet hiver et là encore une autre échéance internationale. Donc au fur et à mesure j'apprends et je me sens de plus en plus armée et là vraiment j'espère vraiment être dans cette finale au Stade de France.
Les filles, restez avec nous, juste un mot avec Aurélien Tiersa, parce qu'Aurélien, tu suis l'athlète depuis des années sur RMC, là tu vois des championnats d'Europe qui sourient avec des médailles qui s'enchaînent. Qu'est-ce qui a changé finalement dans cette équipe de France, Aurélien? Tu penses que c'est l'effet jeu de Paris aussi qui apporte de l'émulation dans cette équipe de France?
Ouais, probablement. Et puis cette jeune génération, on en parlait quand même depuis 4-5 ans, on sentait qu'il y avait le potentiel. On a toujours aussi parlé de la densité, parce que la médaille table, la table des médailles, on faisait pas le figure l'équipe de France, mais à la placing table, il y avait quand même des gens qui étaient finalistes. Voilà, Alice Finot qui fait 5e au Mondiaux de Budapest, c'est les championnats du monde. Le grand public, il s'en fiche un petit peu de la 5e place, mais ça veut quand même dire beaucoup de choses. Et puis il y a aussi l'avènement, là on en a deux des plus beaux exemples, l'avènement de l'athlète féminin en France, parce que c'est pendant très longtemps, on parlait de Mélina Robert-Michon et de Renelle Lamotte, mais sinon c'était que des garçons qui étaient des chances de médailles. Et là on a Alice, on a Agathe, on a parlé d'Ilionis Guillaume, Sirena Sambamayela, évidemment, parce qu'avec son chrono de 12-31, on a vu aussi son coach américain, il dit ça va descendre encore, mais descendre encore ça veut dire qu'on se rapproche des 12-12 du record du monde, on se rapproche du podium olympique. Donc là ça commence à parler très très fort. Et là devant mes yeux il y a la perche de Kevin Mayer qui vient de valider 5m30, à ses côtés il y a Mackenson Gletti. Cette génération, on la voyait dans l'ombre des stars françaises, ça y est, en fait elle arrive à éclosion, probablement, enfin au meilleur des moments. Alors après il va falloir valider, mais c'est le meilleur des moments pour en tout cas montrer que la France est enfin capable de gagner des médailles. On peut porter, voilà, là j'ai le maillot de l'équipe de France d'athlétisme sur moi, là on est fiers, on bombe le torse.
Avant
comme
non, maintenant oui.
Maintenant, c'est bon. ça.
Aurélien, juste en deux mots, qu'est-ce qui nous attend sur les deux dernières journées? Là c'est l'avant-dernière soirée ce soir, est-ce qu'il y a des grands rendez-vous? Il y a la fin du décathlon de Kevin et de Mackenson, oui effectivement.
Ouais, exactement. Bah, on attend les minima validés par Kevin Mayer. Ça devrait ne pas poser de soucis. Il reste désormais le javelot et le 1500. Donc, ça serait quand même compliqué de se manquer là-dessus. Mackensen Gletti, qui est quatrième pour l'instant, vise une médaille. On a trois Français, Gogoua, Compaoré et Jean-Marc Ponviane en finale du triple saut, avec pourquoi pas une petite chance de médaille. On n'oubliera pas Louise Maraval sur le 400 mètres haies. Alors, il y a Femke Bol, la Hollandaise volante en face. Donc, ça sera compliqué,
oui,
l'or.
Déjà,
mais pourquoi pas une médaille.
Ah ouais.
Et puis là, ça va vous parler aussi, Jimmy Gresset, Yann Schrub.
Ah oui.
Moi, j'ai envie de croire à un autre doublé français après le 3000 steeple et le doublé Miele Bedrani.
On veut un poulet sur la tête de Yann Schrub. Hein. Donc là, il faut qu'on arrive à ça. Bon,
il
merci.
Avait prêté à Gabriel.
C'est Gabriel qui l'a prêté
à Gabriel. Ouais, bah oui, autre ami d'RMC Running qu'on avait reçu, Gabriel, quel bonheur. Bon, vous nous régalez tous. En tout cas, merci Aurélien, on te laisse filer travailler et on reste avec les filles pour se projeter sur Paris. Déjà, juste un mot sur ce qu'on vient de dire à Agathe et Alice. Alice, démarrons par toi. Comment tu expliques ces bons résultats de l'équipe de France? C'est l'excitation aux Jeux Olympiques, c'est l'émulation collective. Qu'est-ce qui se passe entre vous là en fait?
Moi j'ai ma petite théorie.
Ah vas-y.
je pense que la fédération a mis en place des moyens, des stages, une équipe qui nous permet de nous professionnaliser. Alors on n'a pas tous les mêmes démarches. Voilà, moi j'ai eu des années en entreprise, j'ai travaillé 5 ans dans l'industrie automobile, etc. Donc je peux dire que c'est des process vers lesquels je tends à aller. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde en fonction de notre maturité, de nos expériences, etc. Et donc Patricia Djaté, notre référente du demi-fond, a vraiment mis une équipe complète autour de nous et nos amis à disposition. Tout ce qui va permettre d'optimiser la performance. Alors très bien, aussi bien en amont qu'après la compétition pour récupérer au maximum et être prêt pour la finale. Et je pense qu'on fait la différence. On regarde sous les tentes, les autres nations, ils ne sont pas aussi préparés que nous. Ils ne sont pas à la pointe de la technologie comme nous. Ils n'ont pas de bain froid, ils n'ont pas de wet bike, ils n'ont pas tout un protocole de prépa comme de récup, comme de pré-cooling. Et je pense que mine de rien, tout ça, ça fait la différence. Alors, ce n'est pas des moyens auxquels on est obligé d'atterrir, mais c'est à notre disposition, ouais. Ça nous ouvre l'esprit. Et puis, chacun s'approprie un peu ce qui lui va bien. Et... mine de rien, regardez le demi-fond, enfin, on est tous en finale,
mais oui,
c'est sûr. On est la discipline, enfin, on est la discipline qui a le plus de résultats là, sur ce championnat, donc je pense que tout ça n'y est pas pour rien.
Ouais, les gains marginaux comme ça, c'est intéressant ce qu'explique Alice,
les gains marginaux sont intéressants, après je pense qu'il y a un aspect déblocage mental aussi, tu vois, quand tu vois ta pote faire une perf, bah, c'est un peu, tu te dis bah, pourquoi pas moi, tu vois, et effectivement là c'est l'effet boule de neige où ça rappelle un peu ce qui s'était passé à Zurich ouais. Avec cette génération-là, où les premiers jours, bah, ça marche. C'est ça, ouais, les premiers jours, ça marche. Et du coup, ça amène un peu tout le monde. Et à l'inverse, à Budapest ou à Munich, bah, t'as les premiers jours, Kevin qui se pète, machin, truc. Mm. Bah, là, l'équipe de France, zéro médaille, blablabla. Et d'un seul coup, bah, tu perds un peu tes moyens. Et effectivement, t'as pas ce côté-là. Après, voilà, en plus, il y a toute une génération de jeunes filles qu'on n'attendait pas forcément. Tu vois, Alice, Agathe, sans leur faire injure, il y a 5 ans, quand elles étaient cadettes, juniors, espoirs, elles étaient loin, tu vois, c'était pas des filles. Chez les garçons, Jimmy, Alexis Miele, Luigi Laverte, c'est des garçons qui sont sur les podiums depuis tout jeune, donc tu attends que progressivement ça monte en puissance chez les seniors, et elles arrivent un petit peu de nulle part, et du coup, bah, elles arrivent avec certainement une fraîcheur totalement différente, elles amènent quelque chose de nouveau. Et du coup, on a aussi des filles en finale du 800 mètres avec Anaïs Bourgoin et Elena qui peuvent faire des trucs intéressants aussi, parce qu'elles se disent pourquoi pas moi, les autres elles y sont arrivées, pourquoi pas moi.
Et Agathe, j'ai pensé à toi quand j'ai vu la course de Elena ce matin, sa qualification, elle a remporté sa série, tu devais être comme une dingue, elle qui t'a soutenu à bloc à Glasgow au mois de février, tu devais être comme une folle.
Ah oui, j'étais au bord de la piste déjà pour ces séries. C'était très tôt le matin après ma finale, donc le réveil a un peu piqué, mais j'étais trop contente d'être là pour la soutenir.
Bien sûr.
Et pour rebondir sur pourquoi l'équipe de France aujourd'hui est performante à ce championnat, je pense que d'une part, oui, comme dit Alice, on optimise et on se sent vraiment bien accompagné durant ce championnat. Et même en amont, on a vraiment essayé de faire quelque chose dans le long terme, au vu des Jeux de Paris. Mais aussi, il y a vraiment cette dynamique. Et quand j'étais dans ma chambre d'appel, il y avait un écran, j'ai vu Gabriel Tual gagner son 800 mètres avec
ça
la manière.
Boosté.
Puis, j'étais dans ma première chambre d'appel, j'ai vu Alice Finot, pareil, faire un dernier tour de folie. Et comme tu dis, on se dit, bah, en fait, ce sont des gens comme nous, on porte le même maillot, alors moi aussi, je vais aller les gagner, cette médaille. Et en fait, ça désacralise un petit peu aussi. Ouais. Je pense qu'on parfois, on avait peur de fixer des objectifs aussi hauts. Maintenant, on est complètement décomplexé et on se dit, bah, en fait, nous aussi, on va aller gagner ces médailles. Quoi.
Puis les jeux à la maison, je pense que malgré tout, tu vois, tout le monde s'est dit, voilà, en 2021-2022, bah, s'il y a deux années où je dois m'entraîner comme un débile et où je dois mettre ma vie professionnelle de côté, où je dois mettre ma vie perso de côté, bah, c'est là où je dois faire les efforts, c'est maintenant pour être, pour pas louper les jeux à la maison. Et ça, malgré tout, ça joue. Et pourquoi l'Italie est première à la maison, c'est l'effet maison. Donc je pense que ça aussi, ça peut être, ça va être un plus.
Et on en parlera notamment sur semi-marathon, parce que là, les Italiens ont brillé aussi avec Ripa. Ils nous ont mis une bonne plaque. C'est clair. Un dernier mot avec vous, les filles, avant de vous laisser vous reposer tranquillement. Le programme d'ici le début des Jeux Olympiques. Alice, qu'est-ce que tu as prévu? Est-ce que tu vas rentrer chez toi en Espagne? Est-ce que ça y est, tu restes en France? C'est quoi le programme?
Alors, j'ai changé d'avis. Je ne vais pas repartir tout de suite en altitude parce que je m'étais dit, en fonction du résultat, ça va être sympa d'assimiler ça à la maison, avec les amis, et puis reprendre un peu une routine saine. Et puis après, je vais partir au championnat de France et je vais faire mon cycle de 3 semaines en altitude, duquel je redescendrai pour courir à Charletti, à la Diamond League.
Tu vas à Font-Romeu?
Non, je vais dans une altitude basse, à 1100 mètres d'altitude en Espagne, pour pouvoir me rapprocher des rythmes de compétition, parce que pour moi, Font-Romeu, c'est trop haut. Et donc voilà, ce sera Segovia, à côté de Madrid, pour être mobile. Et pouvoir me déplacer rapidement aussi voilà. Vers la France.
C'est Alice, c'est carré.
Après, à 1100, on n'est quand même pas trop... On est en semi-altitude, quoi.
Ouais.
Oui, voilà, c'est ça. C'est un petit stress.
Mais ça te permet de travailler sur des bonnes allures. Ouais.
Bon.
Exactement.
Agathe, est-ce qu'on retourne en Bretagne ou qu'est-ce qu'on fait là?
Manger des jeux, alors.
Ouais.
Déjà, là, je reste à Rome pour encourager Léna pour sa finale, qui, j'espère, va finir en beauté ce beau séjour pour notre groupe d'entraînement.
Ouais.
Et ensuite, je vais rentrer un peu en Bretagne et on réfléchit là avec Marc, mon entraîneur, à savoir est-ce que je repars en altitude ou pas. Une chose est sûre, c'est que je vais partir, si je pars assez vite là, parce que je veux avoir le temps de redescendre, parce que j'ai jamais fait encore de l'altitude et redescendre direct le jour de la compète. Donc voilà, je réfléchis. Et après, bah, forcément, sur mon chemin, il y a aussi les chevaux de France élite, qui est un critère obligatoire pour la qualif au jeu. Et j'ai à cœur aussi de performer au meeting de Paris à Charletti sur un beau 1500 mètres en Diamond League.
Ouais. Tu sais que c'est une terre de record du monde, donc tu peux te faire plaisir.
Ouais, moi j'aimerais bien battre le record de France et passer sous cette barrière des 4 minutes, parce que je pense que j'en suis capable. Et,
bah oui, on te le souhaite.
Donc voilà, mon chemin, en tout cas au niveau des compétitions, c'est les France Elite, la Diamond League de Paris et sans doute celle de Monaco aussi, et les Jeux. Et entre-temps, je vais bien m'entraîner. Je ne sais pas encore si je pars en altitude. On est en train de monter ça avec le coach.
Bon. Merci Agathe, merci Alice. Bonne fin de préparation. On vous veut à bloc, comme là pour les Jeux de Paris. On y sera, on va se régaler avec vous. Et merci de nous avoir fait vibrer. Merci Alice, merci Agathe.
Merci, au revoir.
Salut
au
à
plaisir,
toutes les deux.
Gars,
bye bye, à bientôt.
Ciao.
Et oui, on en parlait parce que le steeple marche très bien chez les filles et chez les garçons. On a eu un doublé français
doublé
magnifique
français.
Hier avec la victoire d'Alexis Miellet devant Gilles
Nouveau steepleur Alexis Dingo. Voilà.
On a pensé à notre ami Nico Daru aussi qui était là, qui a fait une belle finale.
Ouais, qui fait 6,
C'était une découverte pour lui.
Ouais.
Une pensée pour Luigi Laver qui lui aussi a fait les minima olympiques. Mais ils vont tous se battre pour 3 places au championnat de France.
Effectivement, le niveau sur steeple est dingo.
Ouais, c'est fou. Et justement, on va écouter la réaction d'Alexis Miellet, c'était hier soir au micro d'Aurélien Tersin.
En fait, j'ai aucun repère, toutes les séances que je fais, je sais même pas si c'est bien. Donc au final, je me rends compte que c'est pas si mal que ça ce que je fais. C'est une idée que j'avais eue il y a 2 ans déjà. Surtout en voyant que le 1500 commençait à se boucher, même avec 3.32, c'est difficile de faire quelque chose. Mon père m'a relancé l'année dernière en regardant les bilans européens. Il m'a dit, regarde le bilan européen, il n'y a pas tant d'Européens qui font les minima olympiques. Il y a peut-être un truc à faire. Et franchement, on a travaillé toutes les semaines. Depuis septembre, je fais une séance de technique par semaine parce que je suis parti de zéro, forcément. Après, je voyais que ce que je faisais, je l'apprenais vite. J'ai pas mal de coordination, je viens du foot, donc j'en ai beaucoup fait. Et je pense que j'ai vite appris, j'ai très vite assimilé. Je suis toujours bien passé en cross aussi. Je passais bien sur 800, 1500, mais aussi sur du borne. Donc je suis pas surpris, mais je pensais pas que ça allait aller aussi vite.
Il est génial ce mec parce que il était sur d'autres distances. Là, il est allé sur 5000, il revient sur 3000 steep. C'est fantastique.
Mais surtout, moi, avec sa capacité, quand il a dit qu'il montait sur steep, tu vois, j'étais un peu, je faisais partie un peu des sceptiques parce que je trouvais qu'il avait cette qualité de miler, de finish. Il était très fort dans les courses. Il était intelligent. Il était capable de, il était très bon dans les courses tactiques. Et je me disais, putain, on perd quand même un vrai pur miler, un vrai coureur de 15. Parce que tout le monde n'a pas réussi sa transition sur le steep. Tu vois, Jimmy Gressier s'est essayé. Il a fait 8,22 de mémoire ou un truc comme ça, ce qui n'est pas extraordinaire par rapport à son niveau sur 3000 plats, parce qu'il y a toute une technique à appréhender et à avoir. Et je me disais, il part de zéro l'année des Jeux. Franchement, au final, il a cloué le bec à tout le monde et il a montré qu'il avait la coordination, il a la capacité toujours à finir fort, même sur un steep, ce qui prouve que musculairement, il a appris à passer les obstacles d'un point de vue technique très bien, mais surtout musculaire aussi, où il peut enchaîner les sauts, parce qu'il y a 28 barrières à sauter quand même sur le steep. Mais le steep est une référence française. On a des très bons techniciens, on a toujours eu des grands coureurs, que ce soit Bob, que ce soit Mayedine, que ce soit Johan Koval. Donc effectivement, c'est dans notre ADN, comme le 110E ou la perche. Ouais.
Et bel hommage hier d'ailleurs sur France Télé de Alexis Miellet à Johan Koval. Hein,
Johan a montré la voie à beaucoup, il a fait 2 podiums au championnat d'Europe, donc voilà, il va essayer de d'améliorer son record aussi, lui aussi, donc il y a un gros niveau.
Bon, d'autres amis d'RMC Running étaient engagés sur le semi-marathon des championnats d'Europe, donc ils étaient un paquet. Il y avait notamment nos marathoniens qui vont défendre nos couleurs pour le marathon olympique. Hein. On pense aux femmes qui clôtureront comme ça les Jeux Olympiques. Des performances un peu décevantes, on va le préciser. Hein. La victoire de Kripa chez les hommes, ça se gagne en 1-3 secondes, voilà, devant son compatriote Pietro Riva. C'est l'Allemand Petros qui fait 3. Le premier Français, c'est un Français, on ne sait pas encore s'il ira au jeu pour l'instant, c'est Félix Bourg. Il termine 16e en 1h02, lui était dans le groupe de tête. Les autres ont un peu souffert, hein, Johan.
Souffert un peu de la chaleur et après, il faut voir aussi, moi j'ai pas l'info de Nico Navarro, voir comment est-ce qu'il s'est préparé pour ces championnats, parce que la vraie difficulté de ces championnats à Rome, c'est qu'en fait... vraiment, si tu veux être performant au jeu, c'est compliqué d'être performant aujourd'hui. Oui. Donc voilà, là, on fait
un débrief. D'un marathon atypique.
Et c'est encore pire. Et d'un marathon totalement atypique. Donc là, on fait un débriefing à chaud des championnats d'Europe. Donc on marque beaucoup de médailles. Mais attention, les Jeux Olympiques, c'est dans 2 mois. Et tu peux pas avoir un pic de forme au 10 juin et au 10 août. Tu vois, donc effectivement, Nico, peut-être que lui, il a pris l'option d'arriver un peu fatigué et un peu chargé musculairement sur ses Europes au semi. Et c'est pour ça qu'il est passé au travers, tout comme Félix Bourg qui avait enchaîné pas mal de 10 000. Là, peut-être qu'il commence un petit peu à coincer aussi, tu vois.
On les salue quand même. Hein. Nico Navarro fait 46e en 1:06.02, mais c'est vraiment le roi de la gestion d'un marathon. Donc,
je pense qu'il ne faut pas trop s'affoler pour lui. Exactement. C'est vrai qu'il n'a pas un RP très élevé sur semi. Et après, moi, je n'ai pas suivi son entraînement, mais voir comment est-ce qu'ils l'ont préparé.
Ouais. Ouais. Benjamin Schocker, 1:04.55, fait 37e. Emmanuel Rudolf Levils, qui lui fait 33e en 1:04.30, et puis chez les dames, on le disait, c'est une Norvégienne qui gagne Grovdal en 1:08, record des championnats 1:08.09. Megdes termine bien placé, 8e en 1:10.04. Megdes qui revient de blessure en plus.
Qui revient de blessure, c'est propre. Ouais.
Confirme un énorme potentiel. Margot Siraki fait 1:11.24, elle termine 16e. Mélodie Julien qui sera sur le marathon olympique 26e. Méline Rollin, record woman de France, 39e. Et Fadoua qu'on embrasse, termine 47e en 1:14.
C'est quand même pas.
C'est pas d'énormes parfois.
Non, c'est pas d'énormes
parfois. Après, c'est des profils différents, des états de forme différents.
Voilà,
aussi,
exactement, hein. C'est ça. Il y en a qui ont couru à la chasse au minima encore jusqu'en avril. Il y en a qui étaient plus ou moins en préparation sur le 10 000. Enfin, c'est un peu. Donc voilà, il faut ça. Je pense que les athlètes n'avaient pas vraiment coché ce championnat d'Europe et ça peut expliquer ces mauvais résultats.
Vous continuez de les suivre, ces championnats d'Europe, sur RMC, sur rmcsport.fr. Et nous, on sera là, RMC Running, tout au long des Jeux Olympiques pour vous les faire vivre de l'intérieur. Donc voilà, c'est une petite annonce que je vous fait, on sera à bloc, gros dispositif. On sera à fond sur les Jeux Olympiques de Paris 2024, sur l'athlée notamment. On passe tout de suite au bon plan matos d'Ossard, un peu tout ce qu'on veut. On y va.
RMC, le bon plan d'Ossard.
Un bon plan d'Ossard matos 100% Johan Durand. Il est partout, il est sur tous les fronts celui-là. Voilà, on accueille tes amis aujourd'hui.
Quand même. Exactement. Ouais, des amis Montbazia quoi.
Ah, en plus de Montbazia.
Et là, on a des bouteilles.
Là, c'est incroyable. C'est même pas des amis de Bergerac, c'est Montbazillac. Là, c'est le.
Non, il y en a un, il est pas de Montbazillac.
Ah ouais, là, c'est le.
C'est un voisin.
Voilà.
C'est un traître Saussignac. Mais ils essayent de faire du vin aussi, mais ils y arrivent pas.
Tu vas pas me faire tous tes bleds à côté de chez toi. Là.
Ah, mais ils font du vin aussi. Hein.
D'accord.
Là, les vrais onologues savent de quoi je parle.
Bon, on met en avant l'appli Runner. Tu es engagé auprès de cette application. On accueille deux cofondateurs, David Dupont, Michael Esté, qui sont avec nous. Salut les gars.
Salut.
Merci les gars, merci beaucoup d'être là. En deux mots, je vous rappelle, enfin on va rappeler ce qu'est Runners, Johan, David et Mickaël. Runners, en fait, c'est une application très utile. En fait, lorsque vous partez sur un lieu de vacances, si vous partez en séminaire avec votre entreprise ou quoi, vous arrivez dans un endroit que vous ne connaissez pas, vous êtes fan de course à pied, vous voulez courir, vous allumez, vous cliquez sur l'application et on va vous trouver un itinéraire de sortie d'entraînement, c'est ça hein?
Ouais, tout à fait. Très bien résumé. En fait, Runners, on voulait en fait résoudre deux soucis du pratiquant. C'est comment trouver un parcours lorsqu'on est dans un endroit qu'on ne connaît pas.
Ouais.
Par exemple, pendant ses vacances, ça va être normalement hyper utile donc, pour les vacances d'été. Et comment varier ses parcours autour de chez soi. Donc en fait, on a développé donc, l'application donc, qui s'appelle Runners et qui, en quelques secondes, génère des itinéraires sur mesure adapté en fait à ton niveau ou tes envies,
ouais.
Partout où tu te trouves.
Ça marche partout dans le monde ?
Alors, ça marche partout en France. Là, on a ouvert l'Espagne, okay. L'Italie, le Portugal. Donc, c'est intéressant pour les Français qui vont cet été dans ces destinations.
Ouais.
On est disponible également au Royaume-Uni, à New York et à San Francisco.
Voilà.
Et à terme, l'idée, c'est de se développer partout dans le monde.
En fait, vous avez choisi tous les lieux de vacances de Johan Durand.
Ouais, c'est ça. C'est là où je vais en vacances.
En fait, comme il n'aime pas le froid, vous n'êtes pas allé pour l'instant au Danemark, en Finlande, tout ça, quoi. Ce sera pour plus tard.
Ouais, ça sera pour plus tard. c'est Johan qui nous a dit il vaut mieux d'abord ouvrir ses pays, ça sera plus utile pour
New York et tout.
Oui, t'as raison, je comprends bien, t'inquiète pas. Juste une question, côté pratique, je télécharge l'appli, je loue. L'appli est gratuite, on est d'accord ?
Oui, l'appli est gratuite. Donc, Runners, ça s'écrit R-U.
Ouais, c'est important.
NNRZ.
Voilà.
Voilà, elle est gratuite, elle est disponible sur iOS et sous Android.
Ok, donc c'est important de le préciser. Est-ce que je peux adapter la sortie que je vais faire, le parcours que je vais faire en fonction de l'entraînement que je vais réaliser ou pas ?
Bah, en fait,
ce que je veux dire, c'est est-ce que si je veux faire une sortie longue de 20 bornes, est-ce que je peux l'adapter grâce à votre application ?
Oui, bien sûr. En fait, comment ça marche ? C'est très simple. Nous, on s'adresse aussi bien au final aux débutants qu'aux compétiteurs.
Okay.
C'est-à-dire que la personne qui va débuter donc, la pratique va pouvoir se lancer dans des parcours de 20-25 minutes pour débuter.
Mm-hmm.
Et donc là, l'application va proposer donc, 5 parcours qui correspondent à ses souhaits. Mais si tu as envie de faire une sortie de 20 km, il suffit de définir distance 20 km, le type de terrain, si tu veux plutôt courir sur route ou sur mixte et bientôt sur trail, en gros, on aura le type de terrain trail qui va sortir, j'espère, courant de l'été.
Okay.
Et là, l'application, elle va te générer 5 parcours différents qui correspondent en fait à ta pratique. Et pour t'éviter de te perdre, tu vas être guidé par un GPS vocal et visuel pendant toute la durée du parcours.
Comment ça marche ? Il faut absolument avoir le smartphone. Donc, on garde le smartphone dans la poche, il est lié aux écouteurs et on peut être guidé comme un GPS. C'est comme ça que ça marche ?
Alors oui, mais en fait, donc pour ceux qui ont l'habitude de partir courir avec leur téléphone, évidemment ils peuvent partir avec leur téléphone. Ouais. Et
t'es
là,
pas obligé de le regarder tout le temps pour voir où tu vas.
Non, parce qu'en fait tu as des guidages vocaux en permanence pour t'indiquer un peu comme un GPS classique de voiture, sauf que là c'est l'app qui te guide. Et pour ceux qui sont un peu plus avancés ou compétiteurs, là on vient de lancer en fait une nouvelle fonctionnalité. Ils vont pouvoir exporter le tracé du parcours, au format GPX,
magnifique.
Ils pourront l'intégrer sur leur montre.
Ouais.
Ouais, tout à fait.
Et ça, forcément, Mickaël, ça change tout. Parce que c'est sûr que l'avoir sur le téléphone, c'est bien, mais il y a beaucoup de runners aussi qui courent sans téléphone juste avec la montre.
Ouais, en effet. Après, c'est vrai que moi, pour ma part, je trouve que le guidage vocal du téléphone est quand même
c'est pratique.
Relativement pratique.
Ouais.
Tout à fait. J'ai les deux usages, donc j'ai la montre et j'ai le téléphone.
Ouais.
Mais dans mes sorties, par exemple, trail, je privilégie quand même mon téléphone.
Ouais, tu préfères l'avoir comme ça. Question simple, si on est à l'étranger, il faut absolument une connexion internet ou ça marche hors ligne aussi ?
Alors, pour l'instant, non. Il faut être connecté.
Okay.
Faut être connecté. Là, on réfléchit à une version premium, justement, qui permettra de partir en totale déconnexion.
Ah, ça, c'est fou.
Sachant que, si tu as une montre de running, il suffit ensuite d'exporter le parcours. Et là, dans ce cas-là, tu n'es pas embêté par la connexion.
Oui, c'est vrai.
Mais en fait, on s'est rendu compte qu'actuellement, on avait plutôt plus d'utilisatrices que d'utilisateurs.
OK.
Et on a la sensation...
Ça, c'est mon effet, ça.
Voilà, c'est Johan, Dr Love. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de nos utilisateurs qui aiment partir en fait parce qu'ils écoutent votre podcast, parce qu'ils écoutent de la musique.
Des gens de qualité.
Exactement. Mmh. Et en fait, le guidage comme ça, ils entendent dans 50 mètres tournés à droite et pendant ce temps, il y a la musique qui continue, etc. Et c'est assez sécurisant parce que on a aussi une fonction de sécurité.
Ouais.
C'est-à-dire que si tu te blesses pendant le parcours ou si tu tombes ou où à un moment donné, bah, t'as vu trop grand, et bah, en fait, tu déclenches un bouton de sécurité et ça envoie un SMS d'alerte à tes proches avec ta géolocalisation exacte.
Et oui.
C'est ce qui entraîne, je pense, c'est ça qui fait que on a plutôt des bons retours auprès des...
C'est pour notre Geoffrey qui se tord des chevilles sur des pistes. Ouais, ouais. Imagine s'il part tout seul. Alors, c'est sûr qu'au bout de deux bornes, il est dans le fossé en PLS.
Après ce qu'on a vu à Charlottetown, on ne laisse plus jamais courir tout seul de toute façon. Hein, c'est sûr, parce que lui, il peut se blesser. C'est le seul mec qui se fait une cheville sur une piste
d'athlée. T'imagines comment c'est plat. Ouais. Une cheville.
Voilà, non, c'est incroyable. Votre histoire là, de prévention, etc., je trouve ça génial pour le trail, en fait. Parce que quand tu pars comme ça, tu ne sais jamais vraiment où t'es. Tu peux comme ça alerter tes proches pour savoir exactement
dans
le
flamme
point
de
précis
rentrée,
et qu'on vienne te chercher, c'est sûr. On peut s'en servir, parce que c'est runners, mais on peut s'en servir quand on fait du vélo, par exemple.
Oui, tout à fait. En fait, la pratique, donc, c'est le running, mais pas que, la marche et aussi le vélo. Et le vélo au sens large, on va dire dans route, VTT, dans la mesure où on a, comme disait David, donc les parcours mixtes, donc mixtes qui mixent, comme son nom l'indique, des chemins de la route.
Ah voilà, bah magnifique, comme ça on peut tout mixer. Et dernière question avec vous, parce que après on va présenter notre autre invité, parce que là aussi ça va intéresser toute notre communauté, mais vous aussi vous dites chocolatine alors, c'est vous.
Ah oui,
c'est vous.
Clairement, alors, sud-ouest.
Les responsables c'est vous.
C'est ça. Okay.
Et vous la mettez dans une poche évidemment.
Et oui,
évidemment.
Et on dit gavé, on prend gavé de chocolatine.
Mais où est-ce qu'on est là, c'est pas possible quoi. Bon, oui, accueillons Clément Sicuto qui est directeur de l'agence Sport Tour International. Salut Clément.
Salut à tous.
Merci d'être là. Alors Clément, c'est un vendeur de rêves.
Ah lui, Clément, attention.
Clément, c'est l'homme qui peut se charger de tout votre voyage quand vous rêvez d'aller disputer un marathon majeur. Voilà, c'est ça. Vous le contactez, vous allez sur le site, vous voulez faire le marathon de Tokyo, le marathon de New York, le marathon de Londres. Et ben voilà, tout est pris en charge et c'est un magnifique travail qui est effectué. C'est un peu le résumé de tout ça. C'est un tour opérateur qui gère les plus grandes courses.
Exactement.
Monde,
en fait, Clément. Nous, le cœur vraiment de notre métier, c'est l'expérience client pendant les voyages. On propose tout ce qui est autour de l'événement, un séjour clé en main. Hôtel, dossard, l'avion, les transferts, les excursions, la pasta party, le briefing avec des professionnels, comme Yoann Durand qui sera à Londres, donc c'est en 2025 avec nous.
Magnifique.
L'idée,
il est obligé de courir, du coup ?
Ça serait bien. On est en discussion.
Ah, il m'avait pas prévu ça.
Ok.
Et donc, c'est de donner tous les conseils d'avant-course au niveau du marathon en lui-même et puis au niveau de la logistique sur place, parce qu'on a des questions de dernière minute toujours. Et puis, donc, le partenariat avec Runners, l'idée, c'est que on a des clients qui forcément s'entraînent, il y a un entraînement mental, physique, qui sont en déplacement professionnel, en voyage, qui cherchent toujours des nouveaux parcours pour s'entraîner et donc qui ont besoin de coaching également. Et donc là, c'est vrai que nous, l'objectif, c'est d'avoir une synergie et un 360 pour que nos clients puissent donc se préparer le mieux possible avant et pendant leur séjour avec nous.
Vous précisez bien à ceux de New York qu'il faut avoir l'ESTA pour aller aux États-Unis, etc. Vous
ne faites
pas
question
là. Pas de boulette.
Parce que ça m'est arrivé, hein, vraie anecdote.
Moi,
j'ai fait le marathon de New York deux années de suite. La deuxième année, un ami de mon père se dit « Allez, on va faire le marathon de New York ». Il se pointe et alors il avait fait l'ESTA mais il n'avait pas de passeport biométrique. Donc c'est-à-dire juste au moment d'embarquer, il n'avait jamais couru de sa vie, il s'est préparé un an et il n'a pas pu embarquer.
Coup de pression.
Il n'avait pas de passeport biométrique. Donc voilà, il y a des petites astuces.
Non, mais
l'objectif, nous, c'est d'avoir un programme complet avec toutes les informations, les petits tips d'avant séjour pour qu'on puisse les accompagner du mieux possible. Au Japon, ce n'est pas forcément très facile.
Bah, c'est sûr.
Barrière de la langue, on a beaucoup de Français qui ne parlent pas très bien anglais ou une autre langue. Et donc le but, c'est de les accompagner du mieux possible.
Je pense qu'il faut juste préciser, parce que moi je suis passé aussi par des tours opérateurs quand j'ai fait le marathon de New York, c'est important de dire que c'est un facilitateur, c'est-à-dire que ça vous gère le voyage, ça vous gère le dossard, ça vous gère le transfert le jour de la course, donc ça c'est un stress en moins aussi qui s'échappe, parce que aller au départ du marathon de New York, c'est pas une mince affaire, parce qu'après les ponts sont fermés, donc c'est très particulier. Vous gérez ça, il y a un minibus qui attend au pied de l'hôtel et vous les emmenez tranquillement quoi.
C'est exactement le cœur du métier. C'est vraiment de proposer l'expérience la plus simple possible. Il y a déjà un challenge sportif qui est assez élevé. Un marathon, le premier pour certains, le premier voyage dans un pays qui est souvent donc inconnu. Et donc, l'objectif de tout notre staff sur place, parce qu'on a des représentants sur tous les séjours, c'est de faciliter les choses. Et puis, on a un cocktail de bienvenue à l'hôtel pour que justement les gens se rencontrent.
Ok, je viens.
ça peut être une sortie running, 5 km le matin. Donc, on peut utiliser l'appli Runners sur New York, par exemple, ou à Londres pour aller à Hyde Park, pour faire la reconnaissance de l'arrivée du marathon le lendemain. Et puis, d'accompagner aussi les spectateurs sur les points les plus sympas du parcours avec l'ambiance, pour que, justement, le séjour soit le mieux possible pour les accompagnants, la famille,
les accompagnants. Ouais. Voilà. C'est chouette. Hein.
Ça, c'est super. Autre conseil qu'on donne, parce qu'on peut se dire, on s'engage avec un tour opérateur et ça peut être, les gens peuvent avoir l'idée, par exemple, d'une croisière où tout est un peu imposé, on est obligé de manger ensemble, etc. Pas du tout, en fait. Il y a des rendez-vous.
Ça dépend vraiment des goûts de chacun.
Il y a des rendez-vous fixés, mais c'est pas parce que vous partez avec une communauté que vous ne connaissez pas que vous pouvez pas partir avec votre ami, votre compagne ou quoi, aller faire des restos tout seul. Il y a une certaine liberté malgré le fait qu'on passe par un tour opérateur aussi.
On propose une pasta party le samedi soir pour faciliter les choses encore une fois, parce que les restaurants sont bondés. Ouais. C'est très compliqué de réserver une table pour 5-10 personnes la veille du marathon. Maintenant, ce n'est pas obligatoire. Il y a des excursions, des visites. Alors, c'est vrai que quand on va sur une destination comme le marathon de Tokyo, on fait le plein sur les excursions et donc tous nos coureurs et accompagnants sont présents. Ouais. Maintenant, sur un marathon comme New York où certains qui vont pour la deuxième, troisième fois, chacun est libre un petit peu de faire ce qu'il souhaite avant le marathon.
Et puis, évidemment, ceux qui nous écoutent le savent très bien, mais l'avantage d'un tour opérateur, c'est que c'est aussi un biais pour obtenir un dossard qui est si précieux, qui est si dur à aller chercher.
C'est ça,
New York, c'est quasiment impossible. Londres, c'est tout aussi difficile.
Sans temps qualificatif, c'est l'objectif. C'est qu'à partir du moment où vraiment la personne a validé sa réservation avec nous, le dossard est attribué. Et donc, on a un système de pré-inscription pour vraiment déjà nous manifester l'intérêt. Mais une fois que la réservation est validée, le dossard, la chambre est attribuée.
Alors, comment vous vous associez? Quelle est l'idée de cette association et de ce projet commun, justement? Parce qu'on l'a dit, on parle du marathon de Londres 2025, on sera au mois d'avril 2025. Quelle est l'idée? Il y a un jeu concours qui a été mis en place. Hein. David, si tu veux, vas-y.
Ouais, tout à fait. Donc, on s'est associé avec Clément et Johan.
Il est fort, ce Johan. Hein. Il est partout, ce mec.
Il faut aussi accompagner les coureurs dans la préparation.
Bien sûr, oui.
En fait, l'idée, c'est que donc on fait gagner deux packs VIP qui incluent le dossard, l'hébergement et 3 mois de coaching assuré par l'artiste.
C'est ça.
Voilà.
Avec My Running Club.
Ah, magnifique.
Avec My Running Club, voilà, tout à fait. Et pour participer, c'est très simple, en fait. Il faut s'abonner au compte Instagram de Sport Tour International France. Et au compte Insta de Runners. Et ensuite, partager un parcours réalisé avec Runners avec le hashtag Gagne ton dossard.
Okay.
Et en fait, le jeu s'étend de juillet jusqu'à fin septembre. Et ensuite, on fera le tirage au sort. Et là, ensuite, c'est Johan qui prendra les deux vainqueurs en main pour les préparer pour le marathon de Londres de l'année prochaine.
Magnifique.
Et ils vont gagner le marathon, je pense.
Ouais, c'est
avec
ça.
Ma programmation.
Alors, non, mais le choix de Londres est très sympa parce que c'est une ville fantastique. C'est un dossard difficile à obtenir. Si
800 000 personnes ont manifesté un intérêt et sont inscrits au tirage au sort pour 2025.
Voilà, bravo. Donc, et puis, c'est un marathon roulant. C'est vraiment un marathon
pour la performance,
Johan.
Ouais, c'est ça. C'est un marathon très performant. En plus, c'est fin avril, donc c'est les marathons de printemps. Tu sais, tu as une préparation sur février, mars, avril, et le parcours, est plutôt propice à la perf. Donc, toi, tu l'as fait.
Je l'ai fait la dernière année où c'était déplacé pour le Covid au mois d'octobre.
Au mois d'octobre.
Ouais, c'était en 2021.
Ouais. Donc, c'est un parcours extraordinaire. C'est belle ambiance. Moi, je ne l'ai jamais fait, mais il paraît que l'ambiance est top.
Et la logistique est super parce qu'avec l'Eurostar, c'est vraiment facile.
Voilà. Et pareil, Londres, c'est bien d'être encadré parce qu'il y a un sacré réseau de transport en commun, mais il ne faut pas se perdre le matin du marathon parce que là aussi, le départ est assez loin du centre
de
Londres.
C'est à Greenwich, tout à fait, 3 quarts d'heure à l'est de la ville. Donc, c'est
toujours mieux d'être guidé dans ces moments-là.
Non, mais je comprends même pas qu'on puisse se mettre un stress.
Oui, c'est sûr.
Voilà, c'est vraiment, on l'a présenté comme un facilitateur, mais c'est le rôle de nos managers, nous athlètes élites, c'est qu'on arrive, on pense à rien. Tu penses pas à ta nuit d'hôtel, tu penses pas à ton hébergement, tu penses pas à ton dossard, tu penses juste à venir et à courir. Et je trouve que pour les athlètes, même à tout niveau, quand tu cherches une petite performance ou juste te faire plaisir, c'est quand même une décharge mentale et physique que de savoir que tu es accompagné dans l'hébergement, machin. Et donc, du coup, dans ce jeu concours, tu seras accompagné
par moi.
Par Bibi, par Johan Durand, magnifique, le meilleur coach de France. Donc c'est un magnifique projet, on vous félicite, on espère que tout se passera bien, il n'y a pas de
et
raison.
En plus, vous, dans la préparation, vous ne vous perdrez pas grâce à Runners.
Et ouais, et
pas
voilà.
De borne en trop.
Et puis on en parlera dans RMC Running, évidemment. Et puis Clément, il y a un autre jeu concours qui est mis en place avec nos amis.
Un troisième dossard donc, qui est en jeu avec voilà. Le Team Orange Running pour gagner le même séjour, accompagné encore de My Running Club. L'idée, c'est donc de venir avec nous pour créer cette équipe dans le même hôtel pendant donc, le Marathon de Londres 2025.
Et ben voilà, magnifique Marathon de Londres. Merci à tous les trois d'être passés
merci
par
beaucoup.
Ici. Merci Clément,
merci
David, merci Mickaël. Tous les amis, les Montbazillacois sont là autour du running, autour de.
Et quand on monte à la capitale, attention.
Ah ouais, c'est ça, exactement. Bon, en tout cas, c'est un magnifique projet et nous, on est ravis de pouvoir en parler ici et d'en faire bénéficier notre communauté parce que tu vas voir le nombre de hashtags qui va monter comme ça grâce au passage de RMC Running. Il va y avoir du postulant.
Ces dossards sont tellement rares que c'est une opportunité ouf de pouvoir les gagner sur un jeu concours.
Exactement. Merci à tous de nous avoir écoutés. Merci Maître Yodu, t'as été excellent comme d'habitude. Le choix musical de Geoffrey Charpie.
Ah non, c'est pas
le retour des choix douteux. Bon, là, on lui en veut pas. On a débriefé les championnats d'Europe de Rome qui se passent très bien pour l'équipe de France.
Ah oh là là, attention, une musique italienne.
Et il a choisi Toto Cutugno.
Voilà.
On y est. Eh ouais, il est là ce Geoffrey.
Bon, je valide, ça va.
Bah oui, là, t'es obligé. Là, t'as pas le choix. Merci à tous d'avoir été là. Merci aussi à tous ceux qui nous ont soutenus et qui nous apportent des messages de remerciement pour le record du monde. Voilà, on a vraiment passé un grand moment avec vous. Et puis on vous dit à bientôt dans RMC Running. Attention, samedi, épisode très important autour du marathon pour tous. Toutes les infos, tout ce qu'il faut savoir sur le marathon pour tous. Si vous avez un dossard, si vous préparez cette course, écoutez bien ce podcast parce que vous allez tout savoir, Yohan.
On va donner toutes les infos.
Exactement.
Ouh.
Allez, merci à tous et surtout quand vous courez, souriez, ça aide à respirer. Salut à tous. Con un vestito gessato sul blu e l'amo viola la domenica in tv.